Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Too Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit.
Bonjour à tous et merci d'écouter Too Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et pour ce nouvel épisode, on a décidé de se pencher sur la nouveauté de la semaine, la série Jupiter's Legacy qui sort le 7 mai sur Netflix. Une série qui fait la part belle aux super-héros, un genre qu'apprécie particulièrement mon invité Roxane Mansano. Salut Roxane.
Coucou Laurence.
En fin d'émission, l'acteur Guillaume Labbé, à l'affiche de la série de France 2 L'École de la vie, vous dévoilera son coup de cœur sur Netflix. Alors que ce soit en termes de films, de séries ou de séries d'animation, les super-héros ne cessent de s'infiltrer sur nos écrans. La dernière série en date sur Netflix est donc Jupiter's Legacy, dans laquelle de vieux super-héros veulent passer le flambeau à leurs enfants, mais sont alors confrontés à un choc des générations. En effet, pas facile d'être le fils ou la fille d'un super-héros légendaire et de vivre dans son ombre.
Il était comment, papa, plus jeune ?
Tout glissait sur lui, il était insouciant.
L'homme que je connais était jamais là quand j'étais enfant. Il fallait qu'il sauve le monde.
Alors Roxane, est-ce que les héros de Jupiter's Legacy, les vieux comme les jeunes, t'ont convaincu?
Alors avant même la diffusion de Jupiter's Legacy, on a pu lire partout dans la presse que Netflix comptait en fait trouver avec cette série un peu son The Boys à lui. Une fiction avec des super-héros irrévérencieux, mais qui est disponible sur une autre plateforme. Alors je vais être directe, elle n'est pas au même niveau que The Boys, mais elle m'a quand même convaincue partiellement. Finalement, car si je pensais que la partie sur les jeunes allait plus me plaire, c'est toute la partie sur les anciens qui m'a le plus intéressée. Cette première saison de 8 épisodes se déroule en fait en deux temporalités. Une qui se passe aujourd'hui, où on voit la lutte des générations et notamment tout un questionnement sur le fait s'il faut tuer ou non son ennemi lors d'un combat. Alors si les jeunes aimeraient, les vieux super-héros sont contre. Et la deuxième se passe dans le passé, lors des années 30. La reconstitution et les costumes de cette époque sont vraiment bien réussis, à l'inverse des costumes des super-héros qui font mal aux yeux et un peu cheap à mon goût. Mais découvrir ce qu'ils ont enduré pour obtenir leur pouvoir et tout le voyage qu'ils ont entrepris sont des intrigues bien plus intéressantes que le conflit entre les enfants et les parents. D'ailleurs, petit point positif de cette série, c'est qu'elle a développé cette partie alors qu'elle en était une toute petite dans les comics éponymes.
Oui, parce que effectivement, comme c'est souvent le cas pour les séries de super-héros, Jupiter's Legacy est l'adaptation d'une bande dessinée de Mark Millar qui a travaillé à la fois chez DC Comics et chez Marvel et puis à qui on doit notamment des fictions comme Kick-Ass et Kingsman. Alors si je comprends bien, Roxane, un bilan un petit peu en demi-teinte quand même pour Jupiter's Legacy. Un mot sur les acteurs peut-être ?
Oui, alors Josh Duhamel m'a complètement étonnée. J'ai le souvenir de lui dans Las Vegas à l'époque. Et si je le trouvais lisse dans ce rôle, je l'ai trouvé plutôt convaincant dans celui qu'il a dans Jupiter's Legacy en tant que super-héros et leader. Beaucoup plus sombre et torturé. C'est une belle surprise, comme Matt Lanter qui en est aussi une pour moi. Après l'avoir découvert dans Beverly Hills Nouvelle Génération et Timeless, il dévoile ici une autre facette de son jeu. Par contre, va falloir se faire à sa chevelure blonde, hein. C'est un peu dur quand même.
Alors comme on le disait, les fictions sur des super-héros sont très nombreuses aujourd'hui, à tel point qu'il est parfois même difficile de faire le tri. C'est pourquoi Roxane l'a fait pour vous. Roxane, tu nous as préparé une sélection de 3 autres séries à regarder après Jupiter's Legacy. Alors par quoi on commence ?
Je dirais Ragnarok.
Ragnarok, qui s'inspire de la mythologie norvégienne et notamment la légende scandinave de la fin du monde. Elle met en scène un village en Norvège où un adolescent se découvre des pouvoirs qui pourraient lui permettre d'éviter justement le jour du jugement dernier.
C'est comme si tout avait changé depuis mon arrivée à Eda. Est-ce que je suis devenu invincible ?
Alors, par contre, ne vous attendez pas à des super-héros ici ou à des effets spéciaux dignes des films Marvel. Ragnarok met en avant les dieux et vaut quand même le détour pour avoir pris le parti de mêler mythologie scandinave et problèmes sociétaux contemporains. Même si son intrigue reste assez simple, elle a tout de même beaucoup de potentiel et nous tient en haleine. Les paysages de la Norvège m'ont évidemment dépaysé, un décor que je n'ai pas l'habitude de voir avec ma forte consommation de séries américaines.
C'est bien de changer un petit peu de décor, en effet.
Ça fait du bien, c'est vrai, j'étais pas contre. J'ai aussi trouvé les acteurs attachants et charismatiques qui ne sortent pas d'un catalogue de mannequins surbodybuildés pour la collection été 2020-2021. Ce qui fait du bien. Et sinon, Petit bonus, c'est qu'on pourrait même retrouver le dieu de Loki dès la saison 2. Et ça, j'ai hâte.
La série a été créée par Adam Price, qui a aussi écrit Borgen, qui pour le coup est une série politique, donc dans un genre totalement différent, mais qui est également disponible sur Netflix. Et ça vaut d'autant plus le coup de rattraper rapidement la saison 1 de Ragnarok que la deuxième arrive en effet sur Netflix le 27 mai. Après la Norvège, où est-ce que tu as prévu de nous emmener ensuite, Roxane ?
Alors, j'ai décidé de vous emmener rendre visite à Henry Cavill dans The Witcher.
The Witcher, comme beaucoup, elle est adaptée d'une saga littéraire, mais elle est aussi très attendue parce que c'est un jeu vidéo très célèbre. Elle suit le parcours d'un sorcier, Geralt de Rive, dont le destin est lié à celui de la jeune princesse Ciri.
Je veux chercher cet enfant. Je la protégerai. Et je la ramènerai indemne.
Apparemment, il ne vaut mieux pas avoir lu les livres pour apprécier cette série, une adaptation de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur, dont la première saison se base sur The Last Wish et Sword of Destiny, une collection d'histoires courtes qui précède, du coup, la saga principale de Witcher. Comme je n'ai pas lu les livres, je ne peux pas comparer, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette fiction avec tout ce nouvel univers et ses créatures surnaturelles. Surtout au bout de quelques épisodes, quand j'ai enfin compris qu'il y avait plusieurs temporalités. C'est d'ailleurs un de mes regrets, ils auraient dû l'expliquer plus clairement et dès le début. Je me suis aussi passionnée pour les histoires des personnages féminins, finalement plus que celles qui concernaient Geralt, le héros de l'histoire. Néanmoins, Henry Cavill, qui joue le sorceleur, est bon dans son rôle d'homme froid où aucune émotion ne transparaît sur lui. Depuis que je l'ai découvert dans l'étude d'ordre, le charme de l'acteur agit toujours sur la petite midinette qui dort en moi.
Alors là encore, The Witcher aura droit à une saison 2. En revanche, celle-ci est encore en cours de tournage. Après la fantasy, je crois qu'on revient dans un monde un tout petit peu plus normal pour ta dernière recommandation, Roxane.
Oui, on va s'intéresser à comment élever un super-héros.
Tout un programme. Alors cette fois, le héros de l'histoire est un adorable petit garçon dont la mère se retrouve seule face à ses pouvoirs aussi étonnants que déroutants. Et elle va devoir à la fois lutter contre une force maléfique et apprendre à son fils à vivre avec ses pouvoirs.
Il se passe vraiment quelque chose de bizarre. On devrait chercher un moyen de les contrôler.
Combien de temps tu penses pouvoir le cacher ici ?
Alors avec le thème des super-héros, mais cette fois-ci à travers le personnage d'un enfant, comment élever un super-héros renouvelle le genre et apporte un côté rafraîchissant. L'innocence de Dion, le jeune héros au super-pouvoir, est un plaisir à voir. Les comédiens principaux nous rigolent tout autant et ne sont pas des inconnus par les sériephiles. Je sais que certains reconnaîtront parmi eux le talentueux Michael B. Jordan de Friday Night Lights ou le malchanceux Jason Ritter de The Event qui voit toujours ses séries annulées, et aussi la belle Alicia Wainwright de Shadowhunters. J'ai aussi un coup de cœur pour la jeune Esperanza, le meilleur personnage secondaire pour moi. Rien n'arrête cette petite fille en fauteuil roulant dont la franchise et la force sont un plus pour la série.
Décidément, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne vous parle que de séries qui auront une saison 2 et c'est chouette, je trouve, de dire qu'on pourra retrouver tous ces personnages à l'écran. Le tournage des nouveaux épisodes de Comment élever un super-héros a en effet démarré au début d'année. Donc la série sera de retour, voilà, même s'il faut encore un petit peu patienter. Pour résumer, si vous êtes fan des super-héros, découvrez donc la toute nouvelle bande de Jupiter's Legacy, la dernière série de Netflix avec Josh Duhamel. Et puis allez tout de suite rattraper, si vous ne les avez pas encore vus, Ragnarok, la série norvégienne, The Witcher avec Henry Cavill et la rafraîchissante Comment élever un super-héros. Merci Roxane.
Merci Laurence.
On donne maintenant la parole à notre invité. Cette semaine, c'est l'acteur Guillaume Labbé, actuellement à l'affiche de la série de France 2 L'École de la vie, qui vous dévoile son coup de cœur sur Netflix.
Ozark, j'ai été tellement pris par le jeu de Jason Bateman. Je trouve phénoménal, c'est-à-dire qu'il est dans une économie de moyens quand il joue, il fait tout passer. Alors il est vraiment bien filmé, bien éclairé, mais il fait passer tellement d'émotions. Sans presque bouger, il fait tellement confiance aux situations, aux textes que je trouve qu'il laisse le spectateur libre et je le trouve extraordinaire. Et la série, je la trouve très bien. Je trouve qu'elle est bien faite, elle rebondit bien. Parfois, c'est un peu trop dans la structure, mais il y a un peu trop de rebondissements où je me dis bon tiens, ils auraient pu éviter celui-là parce que on le voit un peu venir. Mais les acteurs, enfin lui et les autres d'ailleurs, sont tellement forts que que j'ai adoré.
Et c'est la fin de cet épisode de To Doom. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur To Doom sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts, Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.